invisible.
Voilà qui s'appelle faire de la philosophie. C'était l'éphéméride de François Germain. Voilà, j'ai un peu l'impression d'avoir la Joconde, moi, le matin, en parlant de Léonard de Vinci. Quand je vois notre réalisateur derrière la console, Frédéric Guyon, réalise cette tranche matinale, assistée de Nathalie Vidalon, qu'il a préparée avec toute la petite équipe et qui la coordonne. Stéphane à mon micro, vous connaissez tout le monde, vous avez entendu les tops, il est 7h. À l'heure des informations avec Léo Ardourel, bonjour.
Bonjour à tous. Entre 121 000 et 210 000 personnes ont manifesté hier partout en France à l'occasion du 1er mai, mobilisation en baisse par rapport à l'an passé où les cortèges de la fête du travail avaient connu un regain de fréquentation suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Quelques tensions ont parfois aussi été observées, notamment à Lyon, Toulouse, Nantes ou encore à Paris où 45 personnes ont été interpellées. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, réunit aujourd'hui les présidents d'universités, une réunion en visioconférence alors que plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont connu des mouvements étudiants de soutien à la cause palestinienne ces derniers jours. Des blocages notamment dans les IEP de Rennes, Strasbourg ou encore Menton. Emmanuel Macron lui espère tourner la page de la colère agricole. Il reçoit aujourd'hui les syndicats d'agriculteurs à l'Élysée. Une réunion de travail qui fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement le week-end dernier. Parmi ces mesures, une nouvelle version du plan Ecophyto ou encore l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation dès cette année. Dans l'actualité également, les vigilances orange ont toutes été levées. De violents orages se sont abattus hier soir sur la moitié nord, notamment en Île-de-France, où des vols pour les aéroports d'Orly et Roissy ont été déroutés. Selon l'observatoire Quirinos, près de 23 000 éclairs et impacts de foudre ont été détectés de la Bourgogne jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la région parisienne. La Tour Eiffel a notamment été touchée par un impact de foudre. Une usine Volvic, victime d'un acte de malveillance dans le Puy-de-Dôme, une grosse explosion a eu lieu sur le site, provoquant des dégâts importants et l'arrêt technique de l'unité. Deux personnes se seraient introduites sur le site, elles ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance. Une inscription a également été retrouvée sur un mur pour dénoncer l'extraction de l'eau. Une plainte a été déposée. Et puis du foot, le PSG a perdu sa demi-finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, score final 1-0 avant le match retour prévu mardi prochain au Parc des Princes. Ce soir, place à l'OM qui joue sa demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Coup d'envoi à partir de 21h. Excellente matinée à tous.
C'était Léo Ardourel qui était avec nous pour les informations. Léo qui revient tout à l'heure à 7h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Pour le moment, il est 7h02:45, très précisément. Ça, c'est pour mettre vos montres à l'heure. Si vous ouvrez un œil et que vous écoutez la radio et que c'est Bretagne 5, ma foi, vous avez fait le bon choix. Si vous êtes sous la couette parce que vous êtes en vacances, eh bien, profitez bien. Tout à l'heure, on va parler de météo. On va parler également, on va feuilleter les unes de la presse régionale. Et puis, à 7h10, nous fredonnerons notre petit air, le fameux petit air dans la tête, avec une immense chanteuse française, une grande voix de la chanson française. Je ne vous en dis pas plus. On la retrouvera tout à l'heure à 7h10. À 7h17, Patrick Huffard sera avec nous pour nous livrer ses pronostics pour le Quintet Plus de ce 2 mai. Et puis à 7h27, Frédéric Koster nous livrera pour sa part son conseil de lecture, le livre du jour avec une biographie de LeBron James, le plus grand basketteur du 21e siècle. En tout cas, il se définit ainsi. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure, Frédéric Koster. Et puis à 7h35, nous irons au jardin avec Christophe Hamon, le jardin de Christophe, et nous parlerons d'associations de légumes et de fleurs. Voilà, ce sera tout à l'heure à 7h35. À 7h52, eh bien, c'est Nathalie Villalon qui sera avec nous pour Destination Commune, qui nous emmène toute cette semaine à Plouzanet dans le Finistère avec son maire Yves Dubuis. Ce sera tout à l'heure à 7h52. Et puis, un petit mot pour vous dire aussi qu'à 8h06, nous retrouverons Baptiste Berthelin qui nous parlera musique dans Backstage et David Christoffel qui sera avec nous pour l'horoscope des méchants, son horoscope des méchants. Voilà, ce sera à 8h08. Enfin, un dernier mot pour vous dire que notre invité de la matinale, invité politique, sera Béatrice Hackney-Robin. Elle est candidate du Parti Socialiste aux Européennes et est également adjointe à la mairie de Rennes. Elle sera avec nous en direct tout à l'heure dans Bretagne 5 Matin. Voilà pour les rendez-vous. Tout de suite, nous allons prendre des nouvelles de la météo. De la Bretagne au Pays de la Loire, le temps est plus calme, avec quelques éclaircies et encore des averses. Voilà pour le résumé. Ce matin, le temps reste changeant, avec de courtes éclaircies entrecoupées d'averses, particulièrement sur le nord de la région. Plus au sud, les nuages sont encore assez nombreux, ils vont se dissiper dans le courant de la matinée, laissant place à de belles éclaircies. Dans l'après-midi, le temps sera plus ensoleillé, du sud Finistère au bassin nantais, alors que le ciel sera de plus en plus couvert du centre Bretagne aux côtes de la Manche, avec un risque d'averses parfois orageuses. Le vent d'ouest va souffler en rafale jusqu'à 50 km/h. Côté température, ce matin, les minimales vont de 6 à 11 degrés en général. Les maximales seront comprises entre 13 et 16 degrés dans la journée, avec localement des valeurs avoisinant les 17 à 18 degrés de l'est des Côtes d'Armor à la Loire-Atlantique.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et tout de suite, nous allons feuilleter les unes de la presse régionale en commençant par Presse Océan qui met à sa une les campings. L'été s'annonce chaud, nous dit Le Quotidien qui nous emmène à la visite du camping du Bel Air à Sainte-Marguerite. Et les campings, nous dit Presse Océan, vont monter en puissance pour accueillir les vacanciers. L'été s'annonce sous de bons auspices, c'est-à-dire dans Presse Océan ce matin. Presse Océan qui nous emmène à Nantes avec les secrets de la Beaujoire à l'occasion des 40 ans du stade. Son architecte revient sur les contraintes liées à sa construction il y a 40 ans déjà. Donc, c'est à lire dans Presse Océan. Presse Océan qui nous parle également des cliniques et hôpitaux privés qui vont fermer 3 jours en juin. Les détails à lire dans Presse Océan. Presse Océan enfin qui nous emmène à Prinquio. C'est l'histoire d'un gendarme à la fois policier et maire. Il s'appelle Jean-Pierre Blanc, il est premier magistrat de Prinquio et il enfile aussi la tenue de gendarme et de policier. Son portrait est à lire dans Presse Océan ce matin. Le Télégramme nous parle d'un drame, le drame de la drogue. La drogue a pris leur enfant. C'est suite également au dossier que le Télégramme a consacré au trafic de drogue en Bretagne. Cette histoire est à lire dans le Télégramme ce matin. Le Télégramme qui nous parle aussi des heures supplémentaires des enseignants face au tollé. La ministre fait marche arrière, nous dit le Télégramme. Le projet de l'exécutif de supprimer une partie de ses heures supplémentaires avait été révélé lundi, donc marche arrière pour le gouvernement. L'Union européenne, on parle beaucoup d'agrandissement aujourd'hui de l'Union européenne. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 20 ans, le plus grand des élargissements avait lieu. En 2004, l'UE a accueilli 10 nouveaux pays à l'Est au prix d'un gros effort financier des Allemands et des Français. C'est à lire en page 7 du Télégramme ce matin. Le Télégramme qui nous emmène à Brest, où les immeubles prennent peu à peu des couleurs. 50 rues de la métropole ont vu des propriétaires recevoir une aide publique, c'est-à-dire dans les cahiers, le cahier des locales du Télégramme. Et puis, les sapeurs-pompiers, une affaire de famille chez les Pelans. 3 générations ont revêtu l'uniforme. C'est un portrait à lire en dernière page du Télégramme. Ouest-France nous parle de la nature et particulièrement des atteintes à la nature qui sont toujours aussi peu sanctionnées, nous dit le Quotidien. Lutter contre les atteintes à la biodiversité est une priorité à l'heure de l'urgence climatique et pourtant, ces infractions restent peu poursuivies. L'action de la justice demeure bien souvent marginale, voire peu visible. C'est un dossier à lire dans Ouest-France ce matin. Ouest-France qui nous parle aussi des papiers d'identité. Les délais d'attente sont beaucoup plus courts et ça, c'est une bonne nouvelle si vous avez décidé de refaire vos papiers d'identité avant de partir en vacances. La Ligue des Champions, Paris perd le match aller à Dortmund. C'est du foot, bien entendu. Battu 1-0 Dortmund. À Dortmund, les joueurs du PSG devront faire leur retard à Paris mardi pour espérer s'offrir une finale, c'est-à-dire en page sport de Ouest-France. Enfin, à Rennes, les agents de la ville qui veulent travailler en sécurité, les agents annoncent des actions coup de poing pour réclamer plus de sécurité dans certains quartiers.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Et tout de suite, à presque 7h10, nous quittons les unes de la presse pour fredonner un peu. On en a besoin d'un peu de musique en cette époque compliquée. Et ce jeudi, dans notre petit air, une grande dame de la chanson française. Le 24 novembre 1997, disparaissait Barbara. Elle laisse derrière elle 152 enregistrements, dont 104 chansons originales. Et un public fidèle depuis 40 ans, depuis les débuts de sa carrière, public orphelin de la Dame Brune. Femme de caractère, libre et engagée, Barbara reste une personnalité singulière dans l'univers de la scène musicale française. Ses chansons accompagneront un public de tous âges, souvent touché par ses textes et par la sensibilité de l'interprétation de celle qui fut surnommée la Dame Piano. Ce matin, nous remontons le temps jusqu'au 28 mai 1960. Ce jour-là sortait le 11e album de Barbara intitulé L'Aigle Noir. L'Aigle Noir, la chanson qui donne son titre à l'album, est sans doute la chanson la plus populaire de Barbara, mais aussi celle qui restera le plus entourée de mystères. Plusieurs théories ont circulé quant au sens des paroles de la chanson. Barbara, elle, raconta qu'elle avait composé L'Aigle Noir en s'inspirant d'un rêve qu'elle avait fait et où elle avait vu un aigle descendre sur elle. La chanson, composée quelques années plus tôt, était restée dans un tiroir d'où elle ressortira au moment de terminer l'enregistrement de ce 11e album auquel il manquait un titre. Sur la pochette de l'album, L'Aigle Noir est dédié à Laurence, qui était la nièce de Barbara. Et c'est le compositeur Michel Colombier qui réalisa les arrangements de l'album, qui sera un succès. Ce matin, dans notre petit air, Barbara prolonge la nuit avec L'Aigle Noir, moment onirique et mystérieux, rêve que chacun interprétera comme il lui convient.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé. Emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant. Peut-être une nuit près près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Bonjour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, en soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
La grande, l'immense Barbara, l'aigle noir, titre fort connu de Barbara, sorti en 1970. C'était notre petit air dans la tête et je vous invite à l'occasion à redécouvrir la discographie de Barbara et pourquoi pas lire ou relire ses mémoires inachevées, publiées chez Fayard en 1998 sous le titre « Il était un piano noir ». Vous écoutez Bretagne 5, il est 7h16, on est un tout petit peu en retard, c'est tout de suite, c'est Léo Ardourel qui nous rejoint tout de suite, je vais y arriver, pour faire un point sur l'actualité. Bonjour.
Bonjour à tous. Entre 121 000 et 210 000 personnes ont manifesté hier partout en France à l'occasion du 1er mai, mobilisation en baisse par rapport à l'an passé où les cortèges de la fête du travail avaient connu un regain de fréquentation suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Quelques tensions ont parfois aussi été observées, notamment à Lyon, Toulouse, Nantes ou encore à Paris où 45 personnes ont été interpellées. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, réunit aujourd'hui les présidents d'universités, une réunion en visioconférence alors que plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont connu des mouvements étudiants de soutien à la cause palestinienne ces derniers jours. Des blocages notamment dans les IEP de Rennes, Strasbourg ou encore Menton. Emmanuel Macron lui espère tourner la page de la colère agricole. Il reçoit aujourd'hui les syndicats d'agriculteurs à l'Élysée. Une réunion de travail qui fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement le week-end dernier. Parmi ces mesures, une nouvelle version du plan Ecophyto ou encore l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation dès cette année. Dans l'actualité également, les vigilances orange ont toutes été levées. De violents orages se sont abattus hier soir sur la moitié nord, notamment en Île-de-France, où des vols pour les aéroports d'Orly et Roissy ont été déroutés. Selon l'observatoire Quirinos, près de 23 000 éclairs et impacts de foudre ont été détectés de la Bourgogne jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la région parisienne. La Tour Eiffel a notamment été touchée par un impact de foudre. Une usine Volvic, victime d'un acte de malveillance dans le Puy-de-Dôme, une grosse explosion a eu lieu sur le site, provoquant des dégâts importants et l'arrêt technique de l'unité. Deux personnes se seraient introduites sur le site, elles ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance. Une inscription a également été retrouvée sur un mur pour dénoncer l'extraction de l'eau. Une plainte a été déposée. Et puis du foot, le PSG a perdu sa demi-finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, score final 1-0 avant le match retour prévu mardi prochain au Parc des Princes. Ce soir, place à l'OM qui joue sa demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Coup d'envoi à partir de 21h. Excellente matinée à tous.
Léo Ardourel était avec nous pour les informations. Léo qui revient tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Mais tout de suite, nous rejoignons Patrick Huffard qui nous attend au téléphone pour nous livrer ses pronostics pour le Quintet Plus de ce 2 mai. Bonjour Patrick.
Bonjour Stéphane. Le Quintet de ce jeudi a lieu à Chantilly, sur la piste en sable fibré, dans le prix des grandes écuries, un handicap de 1600 mètres, où 16 chevaux de 4 ans et plus sont engagés. Francis-Henri Graffard a deux pensionnaires inscrits dans cette course, il n'a pas choisi son préféré. Amiral le 13 est plus à l'aise sur le sable, mais Varigny le 9 est aussi une belle chance. Seri le 2 est une habituée des handicaps, et pour son premier quintet, c'est une belle possibilité. Attention à Stardrock, le 16, qui a 5 ans, n'a couru que 8 courses et retrouve un poids favorable dans ce quintet. Skypower, le 8, reste sur deux belles premières places et peut-être une opportunité au vu de sa forme. Enfin, pour une cote, on peut tenter Quartz du Houlet, le 12, que le handicapeur vient de baisser d'une livre. Voici donc notre choix, 13, 9, 2, 16, 8 et 12. À demain, Stéphane.
À demain, Patrick. Patrick Huffer, les pronostics du Quintet Plus à retrouver tout à l'heure à 12h05. Ça, c'est pour la petite piqûre de rappel sur l'antenne de Bretagne 5. Et bien entendu, vous pouvez, amis auditeurs, amis auditrices, retrouver les pronostics du Quintet Plus de Patrick en réécoute sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Dans un instant, nous allons parler sport avec Louis Crépeau et nous retrouvons Frédéric Coster pour le livre du jour. Le temps d'écouter quelques notes de musique, elles sont signées d'un certain Alain Souchon, cet extrait de l'album Am 50s, et c'est un terrain en pente.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elle pense aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion Bannière, plaisir et souffrance, entre les barrières passe le Tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville. Des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.
Et jusqu'à la dernière note pour un terrain en pente signé Alain Souchon. Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale. On est ensemble jusqu'à 9h avec la fine équipe du matin. Dans un instant, le livre du jour avec Frédéric Koster. Et puis nous partirons après le flash de 7h30 au jardin avec Christophe Hamon, le jardin de Christophe. Voilà, on parlera d'associations de légumes et de fleurs ce matin. Voilà, le jardin de Christophe. 7h35 et je vous rappelle notre invitée politique de la matinale tout à l'heure à 8h15 sera Béatrice Acny-Robin. Elle est candidate du Parti Socialiste aux Européennes et adjointe à la mairie de Rennes. Elle sera avec nous en direct au micro de la matinale de Bretagne 5. Mais pour le moment, il est à 7h25. Louis Crépeau nous rejoint pour l'actualité sportive. Bonjour Louis.
Bonjour à tous. Paris devra corriger le tir au parc. L'OM en piste pour une finale d'Europa League. Et puis Monaco, dos au mur en Euroleague de basket. C'est l'actu sport ce matin. À la une, Paris rate le coche. Le PSG battu 1-0 à Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont été moins brillants qu'à Barcelone et ont beaucoup gâché en fin de match. Tout reste à jouer, mais le capitaine Marquinhos regrette les occasions manquées au micro de Canal+.
C'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Des occasions claires qu'on ne peut pas les rater si on veut y aller en finale. À la maison, il faut vraiment les concrétiser, des occasions comme ça. On le connaît, le contexte. Et nous, on est venu ici pour chercher cette victoire. On n'a pas pu. 1-0. On l'a fait déjà avant. On a montré qu'on peut le faire, surtout à la maison, avec l'énergie de nos supporters. C'est sûr que ça va être un scénario différent. On va faire mieux le prochain match et passer en finale.
Et le match retour est prévu mardi prochain au Parc des Princes. Après Paris en Ligue des Champions, place à l'OM en Ligue Europa. Les Marseillais visent eux aussi une place en finale. Match aller ce soir au Vélodrome face à l'Atalanta Bergame. En difficulté en championnat, les Marseillais veulent poursuivre leur rêve européen. Coup d'envoi à 21h à suivre également le choc à Rome Bayer Leverkusen. Le basket, Monaco n'a plus le choix. Le champion de France est battu 89-78 sur le parquet de Fenerbahçe. C'était le match 3 des quarts de finale d'Euroleague. Monaco est mené 2-1 et sera éliminé en cas de nouvelle défaite. Le match 4 se jouera dès demain, toujours en Turquie. Soirée européenne également ce soir en handball. Deux clubs français visent le Final Four de la Ligue des Champions. Pour les quarts de finale, retour, Montpellier veut confirmer sa victoire de 9 buts face à Kiel à 18h45. Et puis à 20h45, le PSG lui doit inverser sa défaite de 8 points à l'aller face à Barcelone. Et puis le tennis avec le tournoi de Madrid à suivre aujourd'hui les demi-finales dames Iga Swiatek, Madison Keys et Elena Rybakina, Arina Sabalenka. Et puis pour le dernier quart de finale, messieurs, Daniil Medvedev affronte Jiří Lehika. Très belle journée.
Merci. Louis Crépeau était avec nous ce matin. On vous laisse soigner votre petit rhume. Louis, c'était l'actualité sportive. Il est 7h27 sur Bretagne 5 tout de suite. Eh bien, le conseil de lecture de Frédéric Koster, c'est le livre du jour.
Le livre du jour sur Bretagne 5. LeBron James, c'est un nom qui claque chez les amateurs de basketball. C'est sans doute le plus grand basketteur du XXIe siècle et l'un des rares à pouvoir s'adjuger le titre de meilleur joueur de tous les temps avec Michael Jordan et Kobe Bryant. En dehors des parquets, il prend la parole sur des sujets variés, se positionnant sur les questions raciales, Black Lives Matter, et sociales. Il est l'un des sportifs les plus suivis au monde avec 117 millions de followers sur Instagram et 51 millions sur Twitter. Son nom est une marque internationale qui vaut des millions de dollars. Il ne passe pas simplement des deals avec les plus grandes marques. Il s'assoit à la table des directeurs et négocie avec eux. Parmi ses amis, on peut compter Barack Obama et Warren Buffett. LeBron James est aujourd'hui plus qu'un sportif. Son histoire est riche. Sa mère Gloria l'a eu à l'âge de 16 ans. Il a grandi sans père, n'allait presque pas à l'école. Ce n'est qu'à 9 ans qu'il découvre le football américain, puis le basket. Pour raconter son histoire, le journaliste Jeff Benedict s'est appuyé sur des centaines d'interviews, de vidéos, d'articles, de livres. Il a conduit plus de 300 interviews de gens qui connaissent ou ont connu LeBron James depuis son plus jeune âge. Jeff Benedict nous raconte l'histoire de LeBron, un jeune homme ayant grandi sans figure paternelle, jeune étoile d'Akron, devenue comète lors de sa dernière année de lycée. Comment l'enfance de LeBron a façonné son caractère mais aussi son jeu? Comment cela l'a-t-il mené à rendre autant à sa communauté? De ces interrogations, Jeff Benedict a tiré l'essence de ce qui fait de LeBron le King. LeBron de Jeff Benedict est paru chez Hugo Sport.
C'était le conseil de lecture de Frédéric Koster en ce jeudi. Tout de suite à 7h29 sur Bretagne 5, nous allons retrouver les informations. Le temps pour moi de vous rappeler, parce que c'est important, que tout à l'heure, eh bien, nous irons à Plouzané dans le Finistère avec Nathalie Vidalon. Ce sera à 7h52 et ce sera destination commune. Voilà, juste avant le plateau télé de François Germain, qui nous rejoindra donc pour bien préparer notre soirée télé. Voilà pour les rendez-vous. Vous écoutez Bretagne 5. Il est 7h presque 30. Et ce sont les informations avec Léo Ardourel.
Bonjour à tous. Entre 121 000 et 210 000 personnes ont manifesté hier partout en France à l'occasion du 1er mai, mobilisation en baisse par rapport à l'an passé où les cortèges de la fête du travail avaient connu un regain de fréquentation suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Quelques tensions ont parfois aussi été observées, notamment à Lyon, Toulouse, Nantes ou encore à Paris où 45 personnes ont été interpellées. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, réunit aujourd'hui les présidents d'université, une réunion en visioconférence alors que plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont connu des mouvements étudiants de soutien à la cause palestinienne ces derniers jours. Des blocages notamment dans les IEP de Rennes, Strasbourg ou encore Menton. Emmanuel Macron lui espère tourner la page de la colère agricole. Il reçoit aujourd'hui les syndicats d'agriculteurs à l'Élysée. Une réunion de travail qui fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement le week-end dernier. Parmi ces mesures, une nouvelle version du plan Ecophyto ou encore l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation dès cette année. Dans l'actualité également, les vigilances orange ont toutes été levées. De violents orages se sont abattus hier soir sur la moitié nord, notamment en Île-de-France, où des vols pour les aéroports d'Orly et Roissy ont été déroutés. Selon l'observatoire Quirinos, près de 23 000 éclairs et impacts de foudre ont été détectés de la Bourgogne jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la région parisienne. La Tour Eiffel a notamment été touchée par un impact de foudre. Une usine Volvic, victime d'un acte de malveillance dans le Puy-de-Dôme, une grosse explosion a eu lieu sur le site, provoquant des dégâts importants et l'arrêt technique de l'unité. Deux personnes se seraient introduites sur le site, elles ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance. Une inscription a également été retrouvée sur un mur pour dénoncer l'extraction de l'eau. Une plainte a été déposée. Et puis du foot, le PSG a perdu sa demi-finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, score final 1-0 avant le match retour prévu mardi prochain au Parc des Princes. Ce soir, place à l'OM qui joue sa demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Coup d'envoi à partir de 21h. Excellente matinée à tous.
Et c'était Léo Ardourel qui était avec nous pour les informations. Léo qui revient tout à l'heure à 7h45 pour un nouveau point sur l'actualité. Vous écoutez Bretagne 5 si vous ouvrez un œil, il est à 7h32. Dans un instant, le jardin de Christophe, mais tout de suite, nous allons parler innovation avec Valentin Bonjean.
Un dispositif de protection qui pourrait changer la donne en cas d'inondation. C'est une solution qui avait été primée l'an dernier au concours Lépine et qui est revenue sur le devant de la scène suite aux inondations qui ont frappé la France en région ces dernières semaines. La société Flowstop, basée à Perpignan, a développé un dispositif pour prévenir les dégâts dans les habitations en cas de montée des eaux. L'idée est toute simple, installer des barrières gonflables sur les façades des bâtiments pour les maintenir au sec lorsque les cours d'eau sortent de leur lit. Et une sorte de gros coussin géant qui va venir embrasser toutes les ouvertures qui laisseraient passer l'eau. Porte de maison, fenêtre, porte de garage, baie vitrée. Il suffit d'une pompe à vélo ou d'un gonfleur à matelas pour gonfler le Flowstop. 10 minutes suffisent pour mettre une ouverture à l'abri. Une solution plus pratique que les bâtards d'eau métalliques qui sont utilisés actuellement. Des panneaux de métal lourds et contraignants à installer. Une idée qui a été récompensée par le programme French Tech Assure Tech, un programme piloté par plusieurs grands noms des assurances françaises et qui pourrait bien devenir incontournable. À l'heure actuelle, plus de 17 millions de foyers français sont situés en zone inondable. Des inondations qui ont coûté 550 millions d'euros aux assureurs juste après les crues qui ont frappé les Hauts-de-France en novembre dernier. Côté budget, pour obtenir un Flowstop, il faut compter environ 600 euros pour une porte traditionnelle, 1200 euros pour une porte de garage.
Voilà, ça coûte quand même quelques sous, il faut bien le dire. Valentin Bonjean était avec nous pour nous parler innovation ce matin sur Bretagne 5 dans la matinale Ouïdée à 7h34. Dans un instant, bien nous allons aller au jardin de Christophe. Le temps pour moi de vous rappeler que notre invitée politique tout à l'heure à 8h15 sera Béatrice Hackney-Robin. Elle est candidate du Parti Socialiste aux Européennes et également adjointe à la mairie de Rennes. Elle sera en direct au micro de la matinale de Bretagne 5.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphane, comment allez-vous?
Eh bien, comme un jeudi.
Notre réalisateur préféré va bien aussi, j'espère.
Oui, il a été très bien depuis Absolument. Le début de la matinale. Absolument. Ce matin, depuis 7h, il est très très bien.
Comme toujours, il comme est toujours. Parfait.
Voilà, c'est pour ça qu'on le garde d'ailleurs, Frédéric Guillon, le réalisateur le plus connu de l'Ouest.
Oui, mais il est demandé, vous savez.
Vous pensez. Ouais. On va parler de jardinage et de jardin, Christophe, comme chaque jour dans le jardin de Christophe. C'est une auditrice qui vous écrit ce matin, Olivia, de Bain de Bretagne. Elle voudrait savoir quelle association de légumes et de fleurs doit-elle faire pour avoir une bonne culture.
Eh bien, bonjour Olivia. Alors, on peut tenter plusieurs associations de légumes, fleurs, mais aussi de légumes-légumes. Par exemple, les légumes peuvent servir de plantes à pas ou de plantes répulsives. Et ça se complète tout ça. Je vais parler d'un exemple, je vais vous en donner un quand même.
Oui.
C'est quand même mieux. Poireaux, carottes, vous pouvez associer. Alors, l'odeur de la carotte éloigne la teigne du poireau, on en parlait en début de semaine.
Oui.
Et l'odeur du poireau éloigne la mouche de la carotte. C'est pas merveilleux tout ça?
Ça, c'est formidable. Alors, vous savez, j'ai fait cette association-là à la maison sans le savoir.
Ah!
J'ai eu de beaux poireaux, de belles carottes.
Eh bien voilà, c'était pas un hasard en fait. Comme quoi, le jardinier, il a un sens pratique aussi.
Voilà, l'observation de la nature, tout
Mais
simplement.
C'est ça, c'est absolument ça. Hein. Alors, de même, ciboulette et persil se complètent très bien. Alors, vous me parliez de fleurs, Olivia. Eh bien, on a une fleur magique au jardin. Moi, que j'utilise une plante, parce que ce n'est pas une fleur en elle-même, c'est une plante qui donne des fleurs, on est bien d'accord. C'est la capucine.
Oh, la capucine.
Le tropaeolum, les capucines naines.
Vous en avez parlé il y a quelques temps dans le jardin de Christophe.
Oui, je m'en souviens très bien. J'en avais parlé dans une des semaines précédentes. Oui. Voilà, absolument. Eh bien, notre fameuse capucine, elle est très utile au jardin. Déjà, elle est jolie.
Mm-hmm.
Hein, et elle attire, vous savez quoi? Les pucerons.
Ah, les fameux pucerons.
Mais alors, c'est une plante... Un puceron qui se promène, paf, il va sur votre capucine direct. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est le puceron qui est poursuivi par la coccinelle.
Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est le graal du puceron, la capucine. Il faut le savoir. Alors, vous pouvez, c'est une plante à pas. On appelle ça des plantes à pas. On a les plantes répulsives et les plantes à pas. Vous pouvez associer de la capucine avec de tout, hein, finalement. Avec les betteraves, ça, c'est très pertinent parce que les betteraves attirent les pucerons aussi. Avec, bien sûr... Les laitues.
Oui, les fameuses salades. Les pucerons aiment bien les salades.
Ah, les pucerons aiment bien les salades. Mais vous allez voir, vous mettez de la capucine à côté, ça va un petit peu les détourner, même beaucoup les détourner de la salade. Hein, même s'il y en aura un peu. Je ne vais pas vous promettre l'impossible non plus. Hein. Alors, vous pouvez aussi associer des choux paumés et des choux-fleurs avec des œillets d'Inde.
Ah,
le dégaine est très, voilà, il est très utile.
Décidément, j'ai bien travaillé dans mon jardin, je l'ai fait aussi, sans le savoir.
Ben, vous voyez, hein. Parce que les œillets d'Inde, ils repoussent les altices. C'est une petite altice, c'est un petit insecte aussi. Hein. Alors, sauge et tournesol, ça va très bien ensemble aussi. Parce que ça semble favoriser le développement des concombres et des cornichons.
Ah, ça c'est important, parce que souvent les cornichons sont attaqués, il faut bien dire, voilà. Les concombres aussi.
Voilà, absolument. Alors, ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a constaté qu'il y avait une certaine efficacité.
Hein, ça fonctionne.
Voilà, ça fonctionne. On n'explique pas tout au jardin. Hein. Alors, le tabac d'ornement, il piège les alerodes aussi.
Ah, les alerodes.
Voilà, les alerodes. Vous savez, ces tout petits volatiles blancs, là, que l'on trouve un petit peu partout et qui s'agglutinent, notamment aussi sur les fleurs, les annuelles. Tout ce qui est pétunia, ils aiment bien les alerodes.
Ils aiment bien les butiner, ou en tout cas les visiter.
C'est ça, tabac d'ornement, Nicotina sylvestris.
Nicotina sylvestris, celui-là
j'ai reçu. Nicotina sylvestris, ah bien. Ah, vous faites des progrès. Hein.
Ah, avec votre présence, oui.
Ah ben, je suis content alors. Alors, on retient Capucine, souci, œillet aussi, il stimule la croissance et attire les pucerons au profit de la courgette aussi.
Ah, la courgette.
Hein. Ça fait quand même pas mal d'astuces, là. Alors, les épinards aussi, ils aiment bien le souci et l'œillet d'Inde.
Ah, encore l'œillet d'Inde, fois. Encore, voilà.
Encore. Capucine, toujours. On peut les associer avec les haricots, qui sont quand même sujets aux pucerons.
Oui.
Vous êtes d'accord, hein?
Ah oui, les haricots, c'est... J'allais dire, c'est une plaie, les pucerons pour les haricots.
Oui, c'est une plaie, les pucerons. Les tomates, ça va bientôt être la saison de les mettre en terre. Eh bien, on va les associer avec l'œillet d'Inde, encore une fois. Vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes plantes à fleurs, hein. Ça va stimuler la production du fruit. Ça a été remarqué, ça aussi.
Hein? Là aussi, on n'a pas d'explication,
non.
Finalement.
Non. On n'en a pas vraiment, mais on a remarqué que ça stimule la production du fruit, de la tomate avec des œillets d'Inde. Le pois, on va l'associer aussi encore à notre tabac d'ornement, à notre Nicotina sylvestris. Eh bien, voilà, c'est à peu près ce qu'on pouvait dire, hein, Olivia.
Eh bien, Olivia va mettre tout cela en pratique. Elle nous donnera des nouvelles, c'est promis. Hein, voilà, n'hésitez pas, Olivia, à envoyer un petit mot à Christophe. Il aime bien faire un droit de suite, comme l'on dit.
Oui, j'aime bien.
Votre petite formule, Christophe, avant que l'on se quitte.
Le jardin a moins besoin du jardinier que le jardinier du jardin.
Christophe Hamon, le jardin de Christophe, qui revient demain, évidemment. Puis toujours en podcast, hein, sur Bretagne5.fr, pour tous les conseils que vous donnez chaque jour aux auditeurs, aux auditrices de Bretagne 5. Voilà, je vous laisse aller prendre votre café.
Merci.
À demain, Christophe.
À demain.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Le jardin de Christophe. Allez, on se calme, on est sage. Dans le studio, on touche pas les micros. C'était Christophe Hamon. Le jardin de Christophe. Et il est 7h40 déjà à l'écoute de Bretagne 5. Dans un instant, c'est Léoir Dourel qui revient pour l'information. Et nous, on va écouter quelques notes de musique avec Bertrand Belin. Alléluia. Et c'était Bertrand Belin, Alléluia, ça c'était pour le titre de la chanson, et c'était pour la musique. Vous écoutez Bretagne 5, il est presque 7h45, dans un instant, Destination Commune. Nathalie Villalon nous emmène toute cette semaine à Plouzanet dans le Finistère avec son maire Yves Dubuis, dans la matinale de Bretagne 5 et dans Destination Commune plus précisément. Et à 7h57, n'oubliez pas le plateau télé de François Germain pour bien préparer votre soirée. Télé, voilà, ça vous laisse le temps de préparer le petit carnet ou le téléphone mobile pour tout noter. Vous écoutez Bretagne 5, il est 7h45. Tout de suite, c'est le point sur l'actualité avec Léo Ardourel.
Bonjour à tous. Entre 121 000 et 210 000 personnes ont manifesté hier partout en France à l'occasion du 1er mai. Mobilisation en baisse par rapport à l'an passé où les cortèges de la fête du travail avaient connu un regain de fréquentation suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Quelques tensions ont parfois aussi été observées, notamment à Lyon, Toulouse, Nantes ou encore à Paris où 45 personnes ont été interpellées. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, réunit aujourd'hui les présidents d'université, une réunion en visioconférence alors que plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont connu des mouvements étudiants de soutien à la cause palestinienne ces derniers jours. Des blocages notamment dans les IEP de Rennes, Strasbourg ou encore Menton. Emmanuel Macron lui espère tourner la page de la colère agricole. Il reçoit aujourd'hui les syndicats d'agriculteurs à l'Élysée. Une réunion de travail qui fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement le week-end dernier. Parmi ces mesures, une nouvelle version du plan Ecophyto ou encore l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation dès cette année. Dans l'actualité également, les vigilances orange ont toutes été levées. De violents orages se sont abattus hier soir sur la moitié nord, notamment en Île-de-France, où des vols pour les aéroports d'Orly et Roissy ont été déroutés. Selon l'observatoire Quirinos, près de 23 000 éclairs et impacts de foudre ont été détectés de la Bourgogne jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la région parisienne. La Tour Eiffel a notamment été touchée par un impact de foudre. Une usine Volvic, victime d'un acte de malveillance dans le Puy-de-Dôme, une grosse explosion a eu lieu sur le site, provoquant des dégâts importants et l'arrêt technique de l'unité. Deux personnes se seraient introduites sur le site, elles ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance. Une inscription a également été retrouvée sur un mur pour dénoncer l'extraction de l'eau. Une plainte a été déposée. Et puis du foot, le PSG a perdu sa demi-finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, score final 1-0 avant le match retour prévu mardi prochain au Parc des Princes. Ce soir, place à l'OM qui joue sa demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Coup d'envoi à partir de 21h. Excellente matinée à tous.
Léo Ardourel était avec nous pour les informations. Il revient à 8h pour le journal. Léo, pour l'instant, il est 7h47 et on va prendre des nouvelles de la météo.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
De la Bretagne au Pays de la Loire, le temps est plus calme, avec quelques éclaircies et encore des averses. Voilà pour le résumé. Ce matin, le temps reste changeant, avec de courtes éclaircies entrecoupées d'averses, particulièrement sur le nord de la région. Plus au sud, les nuages sont encore assez nombreux, ils vont se dissiper dans le courant de la matinée, laissant place à de belles éclaircies. Dans l'après-midi, le temps sera plus ensoleillé, du sud Finistère au bassin nantais, alors que le ciel sera de plus en plus couvert du centre Bretagne aux côtes de la Manche avec un risque d'averses parfois orageuses. Le vent d'ouest va souffler en rafale jusqu'à 50 km/h. Côté température ce matin, les minimales vont de 6 à 11 degrés en général. Les maximales seront comprises entre 13 et 16 degrés dans la journée avec localement des valeurs avoisinant les 17 à 18 degrés de l'est des Côtes d'Armor à la Loire-Atlantique.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Et dans un instant, c'est Destination Commune. Nathalie Villalon sera avec nous. Elle nous emmènera à Plouzanet, mais tout de suite à 7h48. Eh bien, on va écouter quelques notes de musique comme on le fait chaque jour à cette heure-ci. Et c'est Rent on Time, c'est Métronomie que nous écoutons.
Nothing new, but I still can't handle it.
Sur Bretagne 5 avec ce titre qui nous a fait être en joie ce matin, right on time, on pourrait le dire comme ça. Il est 7h52 sur Bretagne 5, c'est la matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et tout de suite, eh bien, c'est l'heure de Destination Commune avec Nathalie Villalon.
Destination commune à Plouzané avec son maire Yves Dubuis qui est avec nous au téléphone depuis lundi. Bonjour Yves Dubuis.
Bonjour à vous.
Alors on va poursuivre donc sur cette histoire de Plouzané et de surtout son patrimoine. Alors quel est-il, monsieur le maire ?
Plouzané, donc c'est une commune qui est située sur le nord du Goulet de Brest et c'est un lieu évidemment très stratégique. Et donc depuis la période de Vauban, la côte a été un lieu de défense de Brest. Et donc il y a eu de nombreuses fortifications qui ont été construites sur la côte, qui a connu jusqu'à 4 forts. Alors aujourd'hui il en reste 3, et qui sont des lieux importants pour la vie de Plouzané. Le fort du Délec, qui a été cédé par la marine à la commune au début des années 90 et qui a été réaménagé en lieu de concerts, de promenades, avec un point de vue magnifique sur le Goulet. C'est un lieu de verdure très agréable. Le fort du Mingan, qui est toujours un fort militaire, même si aujourd'hui les activités y sont moindres, et qui est le seul monument historique de la commune. C'est un vrai fort Vauban avec une architecture très particulière. Et puis le troisième, peut-être le site le plus emblématique du territoire, c'est le site, le fort et le phare du Minou, qu'on voit un peu partout, pour lesquels on a depuis quelques années des partenariats avec le Conservatoire du Littoral d'une part, Phares et Balises d'autre part, pour permettre la valorisation du site, sa mise en tourisme dans une certaine mesure, permettre de visiter le phare par exemple, ce qui est toujours une expérience appréciée des visiteurs. Voilà pour le côté littoral de Plouzané. Et puis un peu plus dans les terres, on a un site assez remarquable également. Ce sont les anciennes sablières, les carrières de sable de Baudonou, qui aujourd'hui ont été reconverties en lieu de biodiversité. Alors là, on est à cheval entre Plouzané, Guilherme, Brest, avec des lacs, des zones naturelles et des superbes promenades à faire. Vous pouvez également s'arrêter à la petite chapelle de Baudonou qui est à côté et qui date du 15e siècle et qui est un joli morceau de patrimoine religieux de cette époque-là.
On comprend mieux, Yves Dubuis, pourquoi Plouzané est prisé. 14 000 habitants, on le disait les jours derniers. Mais comment vous faites à loger tout le monde ?
Ah, la question du logement, c'est évidemment la question centrale en ce moment. C'est une question à Plouzané, c'est la question également sur l'ensemble de la métropole de Brest et au-delà du pays de Brest. Comme toutes les communes, on manque de logement. On manque de logement pour faire face aux évolutions de la société, parce que les gens vivent de plus en plus vieux, on ne peut que s'en féliciter, parce que malheureusement aussi les familles décohabitent et que là où on logeait une famille de 5 ou 6 personnes dans une maison il y a quelques années, aujourd'hui on a des familles moins nombreuses mais pour lesquelles il faut souvent 2 logements. Et ça complique terriblement la question du logement. On est également une commune étudiante. Et donc il nous faut du logement étudiant en plus. Donc c'est une, une énorme difficulté et il nous manque du logement à la fois dans le parc privé mais également dans le parc social. Et on essaye de travailler dans ces différentes dimensions pour réussir à construire du logement sans dénaturer la commune. C'est compliqué puisque aujourd'hui on a de plus en plus de recours sur les projets de construction, que ce soit en extension urbaine des nouveaux quartiers ou en rénovation urbaine de la construction et de la densification dans les centralités, ce qui est un moteur pour nous important, mais là aussi il faut faire face parfois à des oppositions de riverains.
Est-ce que vous avez encore du constructible quelque part et est-ce que c'est cher d'acheter à Plouzané ?
Alors à Plouzané, on a la chance d'avoir une zone constructible encore relativement importante. Alors on est dans le cadre d'une ZAC, hein, une zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire de l'aménagement public. Une ZAC qui a été décidée et dont l'arrêté de création a été signé en 2012 et pour laquelle le premier coup de pelleteuse n'a pas encore été donné. C'est dire aussi à quel point toutes les procédures administratives et techniques sont longues à conduire. Et à quel point le mandat de maire peut être frustrant, puisque là, c'est mon prédécesseur qui, au cours de ces deux mandats qui ont précédé le mien, a conduit la maturation de cette ZAC, et il n'en a pas vu les premiers travaux, et moi, j'enverrai normalement les premiers travaux à la fin de cette année. Là, on est sur une ZAC qui devrait pouvoir accueillir de l'ordre de 700 logements sur une période assez longue, hein, on va pas aller trop vite, mais avec une mixité de formes urbaines et de types de logements. Mais tout ça prend énormément de temps et aujourd'hui on a beaucoup d'attentes et peu de réponses à proposer aux personnes qui souhaitent venir à Plouzané.
Merci Yves Dubuis, je rappelle vous êtes maire de Plouzané dans le Finistère, à demain.
À demain, merci.
Un rendez-vous pris à Plouzané donc pour Destination Commune, dernier rendez-vous demain à Plouzané dans le Finistère et vous pouvez réécouter évidemment Destination Commune sur le site de Bretagne 5. Vous écoutez Bretagne 5, il est 7h58, tout de suite il nous rejoint François Germain pour son plateau télé.
Sur votre plateau télé ce soir, des soupçons, des comédies musicales et des tatouages. Attraction sur TF1, lancement de la série. La vie d'Agathe se retrouve bouleversée le jour où un meurtre est commis dans l'hôtel où son mari logeait. L'homme avec lequel elle partage sa vie est-il un meurtrier ? N'est-elle pas depuis des années prisonnière d'une relation abusive et toxique ? Les questions se multiplient.
Il y a une femme qui est morte à l'hôtel.
Quand je suis rentré, je l'ai croisée dans un des couloirs de l'hôtel.
Il y a une enquête qui a été ouverte.
Fred, c'est quoi cette histoire d'enquête ?
Elle est devenue complètement hystérique.
Ce qui s'est passé après, je sais pas comment c'est arrivé.
Et tu l'as laissé comme ça ? Et pourquoi t'as fait ça ?
Pourquoi t'as pas appelé l'ambulance ?
Je sais pas pourquoi j'ai pas appelé l'ambulance, je sais pas !
Envoyé spécial sur France 2, magazine présenté par Élise Lucet. Parmi les sujets du soir, comédie musicale, les 10 commandements d'un succès. Une dizaine de comédies musicales sont à l'affiche et remplissent les salles. La formule magique, une histoire universelle, des chanteurs à voix et un budget de plusieurs millions d'euros. Tattoo Cover, sauveur de tatouages sur TFX Magazine. Toujours à la mode, le tatouage fait de nombreux adeptes à travers le monde, mais gare aux mauvaises surprises. Heureusement, des professionnels ouvrent les portes de leur salon à Paris pour embellir ou recouvrir les tatouages ratés.
Bienvenue chez Tattoo Cover, un salon de tatouage unique en son genre. Ici, 4 tatoueurs de renom sont là pour aider les tatoués les plus désespérés.
Mais arrête, non.
C'est quoi ce truc ?
On dirait Chewbacca.
Attraction sur TF1, envoyé spécial sur France 2 et Tattoo Cover, sauveur de tatouage sur TFX. Très belle soirée télé à tous.
Sauveur de tatouage, voilà, c'était François Germain et son plateau télé pour bien passer la soirée devant le petit écran. Et si rien ne vous convient à la télé, il